Radio Okapi. À la présentation du journal, Bibi Mokonkolé. Okapi.
De ce journal, lancement ce jeudi 25 octobre de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans 5 provinces. Le programme élargi de vaccination a ciblé ces coins en raison de la faible couverture de vaccination de routine. Vous suivrez le directeur national du PEV dans ce journal. Procès Jean-Pierre Bemba, le président national du MLC, détenu à La Haye depuis près de 5 ans sans jugement. Madame la juge de la Cour pénale internationale déplore ce retard dans le prononcé du jugement. Kinshasa est la pré-14e sommet de la francophonie. Que deviennent les infrastructures construites pour cette occasion? Éléments de réponse dans ce journal avec son comité d'organisation. Madame, Monsieur, bonjour. D'abord, cette information sportive. La RDC évoluera en groupe B à Port-Elisabeth en compagnie du Ghana, du Niger et du Mali. C'est le résultat du tirage au sort de la CAN Afrique du Sud 2013 effectué hier soir à Durban. Notez que la CAN se disputera du 19 janvier au 10 février 2013. Les Léopards qui débuteront la préparation le 3 janvier dans un pays asiatique livreront un match amical le 14 novembre avec un adversaire qui reste encore à déterminer selon la Fédération Congolaise de Football Association. En santé, le programme élargi de vaccination lance ce jeudi 25 octobre les journées locales de vaccination contre la poliomyélite dans 5 provinces. Selon le directeur national du PEV, les provinces de l'Équateur, Nord-Kivu, Katanga, Maniema et provinces orientales sont concernées par cette opération qui s'étend jusqu'au 28 octobre. Mais quel bilan dresser de la lutte contre la poliomyélite en RDC et pourquoi avoir choisi ces provinces? Écoutez la réponse du docteur Audrey Moulamba au téléphone. De Berry Luchaka.
Pour le moment, je peux dire que nous sommes dans une phase qui est très encourageante. Depuis le mois de janvier jusqu'à ces jours, nous n'avons pas un seul cas de poliovirus sauvage qui a circulé dans notre pays. Nous organisons ces campagnes dans les provinces dont je parle ici, tout simplement parce que quand nous regardons les couvertures vaccinales en PEV de routine, c'est-à-dire la vaccination habituelle, dans ces provinces, ces couvertures sont basses. Deuxièmement, dans ces provinces, il y a des coins, surtout, il y a des coins où nous n'avons pas d'informations. Nous disons qu'il y a des zones de santé silencieuses, des zones de santé qui ne fournissent pas des informations par rapport à la surveillance. Mais maintenant, pour nous rassurer qu'effectivement, la situation que nous avons jusqu'à ces jours est confirmée, il faut vraiment qu'on ait deux passages, que nous appelons des passages de haute qualité, de façon que s'il y a des coins qui échapperaient encore à notre surveillance, que ces coins soient nettoyés.
La Cour pénale internationale vient de totaliser 10 ans d'existence. Des manifestations organisées à Kinshasa à cet effet se clôturent ce jeudi. Sur place à La Haye, aux Pays-Bas, certaines personnalités congolaises sont poursuivies et jugées par cette juridiction internationale. Parmi elles se trouve le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba. Près de 5 ans depuis que le président national du MLC est détenu à La Haye sans jugement. Une situation que regrette Madame Fatouma Tadera de la CPI. Cette juge de la CPI l'a dit hier mercredi à Kinshasa, alors qu'elle participait aux journées scientifiques sur le statut de Rome. Cependant, affirme-t-elle, le retard observé avant le prononcé du jugement est dû notamment à la nature complexe de la procédure. Madame Fatouma Tadiara, juge de la CPI, répondait à Mimi Ngumba Mulongo.
La durée de la phase préliminaire a pris un retard à cause d'un changement intervenu au niveau de la composition de la chambre. Moi-même, j'étais présidente de cette chambre. Dès que j'ai été élue à la première vice-présidence, j'ai été remplacée par le juge Mauro Politi. Pas facile de prendre le bateau en marche dans une matière de procédure pénale internationale. Il a eu besoin de temps pour maîtriser le dossier afin de participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. Bon, depuis la confirmation des charges, le retard est dû à la nature complexe de la procédure. Il y a les problèmes de traduction, les problèmes d'expurgation de l'identité des témoins et des victimes pour leur éviter des représailles. Il y a la longue distance qui sépare les témoins du siège de la cour. Sinon, il n'y a aucune raison politique qui puisse justifier ce retard que nous-mêmes déplorons avant tout le monde.
Comme vous le savez, le sénateur Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2002 et 2003 en Centrafrique. Depuis début août, le président du MLC a commencé à présenter sa défense. Plusieurs témoins sont appelés à la barre, mais l'essentiel de leur déposition se passe à huis clos. Retrouvons sur place à La Haye notre correspondante Stéphanie Maupin.
Les avocats de Jean-Pierre Bemba avaient assuré que ses témoins déposeraient à visage découvert, mais le procès du sénateur congolais continue de se dérouler, pour l'essentiel, à huis clos. Au cours des deux dernières semaines, plusieurs fonctionnaires de l'époque du régime Patassé ont déposé sous pseudonyme et leur récit, interrompu par d'incessants huis clos, continue de faire de l'affaire Bemba un procès quasi confidentiel. Néanmoins, ce que l'on peut comprendre des cours extraits publics de leur déposition, c'est que l'État centrafricain aurait fourni uniformes, armes et munitions aux soldats du MLC dès leur arrivée en Centrafrique fin octobre 2002. Depuis le début du procès, Jean-Pierre Bemba affirme qu'il n'avait pas le contrôle sur ses soldats envoyés en Centrafrique pour soutenir le régime menacé de l'ex-président Patassé et qu'il ne peut dès lors être tenu responsable de leurs actes. Leurs actes, ce sont les viols, les meurtres et les pillages décrits par les victimes lors de la première phase du procès dédiée aux témoins de l'accusation. Certaines avaient identifié leur bourreau comme membre du MLC de Jean-Pierre Bemba, notamment parce qu'il parlait lingala. Or, l'un des témoins de la défense a affirmé que des mercenaires congolais s'étaient engagés du côté des rebelles de Bozizé. Selon la défense, l'usage du lingala ne peut dès lors permettre d'identifier les auteurs de crimes. À La Haye, Stéphanie Maupa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Dans le Katanga, une mission conjointe MONUSCO, agence humanitaire et gouvernement provincial du Katanga, séjourne depuis hier, mercredi, à Mitwaba, territoire situé à environ 350 km de Lubumbashi. Objectif, lancer officiellement l'opération de réédition d'une centaine des combattants Maïmaï basés à Mupanga, village situé à 38 km de Mitwaba Centre. La délégation s'est rendue dans ce village pour parler avec les combattants Maïmaï sur place à Mitwaba. Colin Djuma Moussompo nous fait le point.
Le premier à prendre parole, le ministre provincial de l'Intérieur, Bikana Kazadi, a fait savoir au Maïmaï certaines dispositions mises en place par le gouvernement provincial du Katanga pour la réussite de cette opération. Le chef de bureau de la MONUSCO a quant à lui exprimé le vœu de voir ces combattants Maïmaï arrêter leur mouvement et s'impliquer dans la logique de la paix. Les fils et les filles de Mitwaba ont plus besoin de la paix qui leur permettra de retourner à leurs travaux de champ. Réagissant à ces deux déclarations, Kaïsi, le chef Maïmaï, dit être disposé de déposer leurs armes sous une condition de se remettre à leur hiérarchie. En plus, ils se disent appartenir au mouvement des peuples du Katanga créé en 1968 réclamant l'indépendance du Katanga. Pour l'heure, on ne peut pas parler de la réédition tant qu'il n'existe aucune disposition prévoyant le sort de leurs combattants. Les membres de la délégation se disent confiants et promettent de rencontrer ce Maïmaï ce jeudi de Mitwaba. Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Kinshasa, plus d'une semaine après le 14e sommet de la francophonie, tenu dans la ville-province, toute l'infrastructure construite pour cette occasion reste toujours en place dans la capitale congolaise. C'est notamment l'exemple du village de la francophonie et du centre de presse, respectivement installés au stade des martyrs et au palais du peuple. Mais que vont finalement devenir ces infrastructures? Le comité d'organisation explique que le gouvernement a déjà été saisi sur cette question et c'est à lui de trancher. On écoute Kazadine Tolé, commissaire adjoint du comité d'organisation du 14e sommet de la francophonie, au micro de Donna Madimba.
Le gouvernement examine, nous l'avons soumis au gouvernement, c'est plus le comité d'organisation soumis au gouvernement cette proposition. Le gouvernement examine ce qu'il y a à faire de mieux pour sauvegarder cette belle infrastructure. Une proposition sera retenue pour la rentabilisation de cette infrastructure. Mais l'expérience qu'on a jusqu'ici, c'est que la plupart des pays ont sauvegardé ces emplois, ces infrastructures pour destiner à autre chose qui a dans le sens, si vous voulez, des activités culturelles.
Terminons ce journal à Kisangani, où la MONUSCO, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies, a organisé une conférence au Palm Beach portant sur son propre mandat ainsi que sur les réalisations des agences du système des Nations Unies en province orientale. Jean-Claude Essouka, représentant l'autorité provinciale, apprécie les réalisations des Nations Unies en RDC en général et en province orientale en particulier. Il est au micro de Dorcas Kanko.
Nous apprécions l'initiative qui avait été prise avant que nous ne soyons nés à pouvoir créer une organisation qui regrouperait toutes les nations. Parce que j'étais en train de m'imaginer comment nous allions gérer ce monde en dehors de cette organisation. Ça allait être la jungle. La MONUSCO est là avec ses casques bleus qui nous aident. Comme vous le savez, notre pays est confronté à des situations d'insécurité. Notre province est là. Nous apprécions le travail accompli par les casques bleus de la MONUSCO. Nous apprécions aussi le travail qui est rendu par les agences des Nations Unies, notamment l'UNICEF, l'OMS, il y a l'INOPS qui nous font l'OCHA, les agences humanitaires qui aident nos populations qui se déplacent de leur village, ils leur apportent d'appui, d'assistance humanitaire. Nous sommes conscients de ça.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.